Nous allons relire ce que nous avons lu la semaine dernière concernant le message tiré de Genèse 6, versets 5 à 14. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Mais Noé trouvera grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Noé engendra trois fils, Sem, Cham et Japheth. La terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue, car toute chair avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrêtée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'endureras de poids en dedans et en dehors. »
On va se courber dans un mot de prière. Notre Père céleste, on réalise avec stupéfaction, Seigneur, que et en même temps, on comprend que toi, le Dieu infini de l'univers, tu nous aimes avec un amour qui est éternel. Tu as répandu cet amour sur nous avant le début des temps. Tu nous as choisis et tu nous as destinés à la vie éternelle avant la fondation du monde. Nous nous reposons dans l'assurance que ton amour durera pour l'éternité. Tu as fait de nous une race choisie, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple qui t'appartient. Ouvre nos yeux pour que nous proclamions ton excellence, parce que tu nous as libérés des ténèbres à la merveilleuse lumière de ta vérité. Tu nous as élevés hors de la mort spirituelle par la vérité salvatrice de l'Évangile. Et tu nous as rendus pleinement vivants dans le Christ par ton Esprit. Et tout cela à cause du grand amour avec lequel tu nous as aimés. En ta parole, on peut lire, car tu es grand et tu opères des prodiges, toi seul, tu es Dieu. Enseigne-nous tes voies, ô Éternel, nous marcherons dans ta fidélité. Dispose nos cœurs à la crainte de ton nom. Père, on a maintenant le privilège béni d'être non seulement tes esclaves respectueux, mais aussi tes fils et tes filles bénis. Et on dit avec l'apôtre Paul, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Et ensuite, Paul ajoute « à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. » Amen. Est-ce que tout le monde a reçu son petit pamphlet pour le message? Sinon... Faites juste lever la main, mon frère Richard va s'occuper de ça. Bien, ce matin, on termine cette courte série sur l'histoire de Noé, l'histoire du déluge, excusez-moi. Et on pourrait dire que, après avoir lu l'histoire de la merveilleuse création de Dieu dans Genèse 1, à partir de Genèse 1, eh bien, on a raison de se demander, de se poser la question, pourquoi plus tard Dieu a voulu détruire, ou il a détruit, c'est-à-dire le monde avec le déluge? Pourquoi? Pourtant, ce que Dieu avait créé, c'était beau, c'était parfait. C'est arrivé seulement 10 générations après Adam et Ève. Qu'est-ce qui a tant changé pendant ce temps-là? Qu'est-ce qui est arrivé? Et la réponse, c'est que le péché est entré dans le monde. Et que depuis, les effets du mal, ce que le mal produit, bien, ça se fait encore sentir aujourd'hui, en 2019. Pour nous, une génération, c'est environ 40 ans. On pourrait dire que 40 ans, ça veut dire à peu près une génération. Et on peut voir que quand seulement une ou deux générations, aujourd'hui, on est témoin de la décadence de notre culture. Si on recule 20 ans passés, là, en 99, puis là, on regarde aujourd'hui en 2019, là, j'ai le regret de vous dire que ça ne va pas mieux. C'est un monde décadent. Ça va pas, ça ira pas de mieux en mieux, je vous le dis. Même s'il y a des gens qui pensent qu'on va sauver la planète, ça ne veut pas dire de ne pas rien faire. Il est trop tard. Oui, la prospérité, le matérialisme, c'est des choses qui sont à la hausse. Hein? Le monde, les riches deviennent encore plus riches. On a plus de les pauvres plus pauvres. On a toutes sortes de bébelles électroniques. Je parlais avec Roland hier, il dit, on serait-tu bien pas de téléphone cellulaire? Avant, on vivait pareil. Mais le respect pour le jour du Seigneur, le respect pour le bien d'autrui, ça, ça s'en va à la baisse. Ça ne s'améliore pas. Pour voir à quel point ça peut changer en 10 générations, il faudrait reculer environ en 1619. 40 ans fois 10, ça fait 400 ans. Donc, depuis 1619, là, on n'était pas là ni un ni l'autre, là. Est-ce que la vie en 2019 ressemble à 1619? Non, il n'est pas peur de le dire. Là. La réponse est non. La vie n'est plus pareille. Donc, depuis la création d'Adam et Ève, les conditions de vie du monde antique, le monde ancien, au moment où ces 10 générations-là se sont écoulées, bien, le monde était corrompu. Et là, comment Dieu évalue cela? Et on le voit dans le passage, dans les passages qu'on a vus ce matin, premièrement au verset 5. Hein? L'Éternel a vu que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Imaginez-vous comment corrompu on est rendu, que le monde était rendu. Maintenant, j'ai parlé aussi du cœur de Dieu. Qu'est-ce que Dieu ressentait dans son cœur? Et au verset 6, on peut lire, « L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. » Et quand j'ai dit « repentit », ça veut pas dire qu'il y a eu de la peine, Ça ne peut pas dire qu'il a voulu changer d'idée parce que Dieu ne change pas. Mais Dieu était peiné dans son cœur d'avoir créé l'homme. Et là, Dieu prend une décision. Il prend une décision et il dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Et là, on arrive à Noé. Et malgré l'état lamentable et décourageant de la terre, il y avait un homme qui était différent des autres. Et au verset 8 et au verset 9, on lit, « Mais Noé a trouvé la faveur, a trouvé grâce, ça dépend des traductions que vous avez, aux yeux du Seigneur. » Et au verset 9, « Noé, c'était un homme juste, irréprochable en son temps, et marchant avec Dieu. » Noé, c'était pas un homme qui avait pas de péché. Allez pas vous imaginer que c'était un homme parfait. Noé était un pécheur. Mais Noé avait trois caractéristiques essentielles qui le distinguaient du reste de sa génération. Noé écoutait Dieu. Noé avait confiance en Dieu et Noé obéissait à Dieu. Et ça va revenir souvent. Savoir écouter, faire confiance et obéir. Par conséquent, le Seigneur lui a parlé de son plan de détruire la terre. Et il a ordonné à Noé de créer une arche. Une arche. Au verset 13, il dit, Dieu dit à Noé, « La fin de toute chair est arrivée par devers moi, car ils ont rempli la terre de violence. Voici, je vais les détruire avec la terre. Fais-toi une arche de bois, de gopher, et tu disposeras cette arche en cellules, et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. » Donc, par l'obéissance d'un seul homme, Dieu allait sauver une famille. Et Dieu allait permettre à la civilisation humaine de se reproduire. L'obéissance d'un seul homme, ça peut penser à l'obéissance de Jésus. Parce que Jésus a obéi à Dieu. Et il est venu, il a quitté son trône de gloire, il est venu s'abaisser en tant qu'homme dans la pauvreté. Et à 30 ans, il a commencé son ministère. Et tout ce qu'il a fait, c'est du bien. Mais on l'a crucifié. Et un matin, on célébrait cette Pâque-là, ce repas du Seigneur où nous savons que Christ n'est pas demeuré dans le tombeau, mais que Christ est ressuscité. Puis grâce à un seul homme, tous ceux qui croient en lui, tous ceux qui reçoivent Christ et qui deviennent son enfant, qui naissent de nouveau, c'est ce que la Bible dit, sont sauvés. Maintenant, il y a des questions qui sont difficiles. Parce qu'on vit dans un monde pécheur, un monde qui change rapidement et qui devient de plus en plus méchant, on doit se poser des questions sérieuses. Et la première, c'est celle-ci. Est-ce que Dieu me voit comme étant un homme ou une femme juste et irréprochable? Je n'ai pas dit sans péché, là. Est-ce que Dieu me voit comme une personne qui est juste et irréprochable? Et ça vaut la peine d'aller cette semaine y réfléchir à ça. Est-ce que mon mode de vie qu'on pourrait le décrire comme pieux et saint? Vous savez, ceux qui sont sauvés, là, dans la Bible, on l'appelle les saints. Et ça, INT. Donc, tous ceux qui sont sauvés ici ce matin sont des saints. Est-ce que mon mode de vie reflète ça? Est-ce que je suis différent de la culture dans laquelle je vis? Bon, je suis engagé dans toutes sortes d'activités, dans toutes sortes de plaisirs du monde. Selon la façon dont je vis, est-ce qu'on peut dire que cette personne-là marche avec Dieu? Est-ce que je suis à son écoute? Est-ce que je lui fais confiance? Est-ce que j'obéis à ses ordres, à sa parole? La dernière, c'est est-ce que je préfère être considéré comme étant classé selon les normes du monde? Hein, moi, je suis un bon garde, avant. Ou comme une personne sainte aux yeux de Dieu? C'est légitime d'y penser. C'est légitime d'y réfléchir. Parce qu'aujourd'hui, on est bombardé de toutes sortes de choses. La télévision, l'Internet, toutes ces choses-là. Et les idées du monde, les valeurs du monde nous envahissent. Et le piège est là. Le Seigneur veut que l'on puisse vivre dans une relation qui est profonde, qui est intime, qui est obéissante avec lui, plutôt que de se conformer avec le monde qui nous entoure. Le Seigneur a dit dans Jean, il a dit à son père dans la prière, « Je les laisse dans le monde, mais protège-les. » Ça signifie que parfois, les gens qui vivent dans le péché, ben c'est pour ça qu'ils ne veulent pas venir à l'église, souvent quand on les invite. Hein, là, vous allez peut-être avoir à faire face à des noms. C'est pas grave, ça. Lorsque vous allez avoir à inviter quelqu'un peut-être à venir le dimanche, le 15 septembre, puis dire, « Hey, on a un prédicateur, c'est Daniel qui va prêcher, qui va amener la parole de Dieu, puis deuxièmement, après ça, on s'en va en famille prendre un bon dîner chez Evergreen, où ce que Nicole... Je suis allé hier, puis j'ai encore pas les hot dogs, mais c'est bon. Puis après ça, on va avoir un temps béni. Une belle salle qui nous attend, là. Peut-on contenir 150 personnes? Le Seigneur, es-tu capable de la remplir? Je comprends qu'il est capable de la remplir. On va dire, comme Richard, il faut mettre...
Les bottines suivent les babines.
Le monde ne veut pas nous voir. Le monde ne veut pas se tenir avec nous autres. J'ai perdu des amis. J'ai perdu des gens dans ma famille. Et ça, c'est inévitable. Parce que tout le monde peut me dire la même chose. Parce que comme Noé, nous, on marche dans la lumière. Vous vous en rappelez quand Serge nous a parlé, hein? Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Bien, on est des lumières. Et tandis que ceux qui sont dans le monde, bien, eux autres, ils marchent dans les ténèbres. Et ce qu'ils veulent, c'est éviter la lumière. Parce que la lumière, qu'est-ce qu'elle fait? Elle expose leur péché. Moi, quand quelqu'un vient ici, là, nouveau, là, oui, il m'a tout fait pour qu'il soit bien reçu. Mais si cette personne-là n'est pas sauvée, là, j'espère qu'elle va sortir d'ici mal à l'aise. Pas à cause de moi, pas à cause de nous qui l'avons mal reçu, non, à cause du fait que l'Esprit est en train de dire « T'es un pécheur condamné et tu t'en vas en enfer. » Mais ce que tu entends, c'est la parole de Dieu. Noé vivait dans un monde condamné. Et bien que Noé était convaincu que le Seigneur le sauverait, lui et sa famille, dans l'arche, en même temps, il savait que Dieu allait détruire tout ce qui l'entourait, y compris le peuple. Tout le monde, sauf sa famille. Et par conséquent, pendant qu'il construisait l'arche, au beau milieu de cette société méchante, puis en part de ça, Noé, il les a avertis du jugement qui s'en venait. Imaginez-vous qu'est-ce qui se passait dans les pensées de Noé. C'est peut-être eux autres qui ont raison. Je suis en train de construire cette grosse bébelle-là pour rien. On n'a pas vu d'eau encore. Il y a certainement eu des émotions qu'on appelle des émotions fortes. Puis c'est la même chose aujourd'hui. On sait, nous, les enfants de Dieu, qu'à part Christ, il n'y a aucun autre espoir pour le salut du monde. Il n'y en a pas. Il n'y a pas un gouvernement sur la terre. Il n'y a aucun lieu de sécurité sur la terre où tu vas trouver la paix, où tu vas trouver le salut. Mais c'est seulement dans une relation profonde avec Dieu à travers Christ. C'est cette façon-là que tu vas être sauvé. Le prochain point, c'est verrouiller en toute sécurité dans l'arche. C'est-à-dire que lorsque Noé est rentré dans l'arche, lorsque l'arche a été terminée, Dieu a envoyé les animaux. En passage, il y en a-t-il qui ont une version qui disent qu'il y en a 7 de chaque qui sont rentrés dans...
J'ai vérifié, puis c'est dans le chapitre 7, verset 12.
Oui, bien, en tout cas, moi, j'ai...
Tu prends l'autre 7 coupes de tous les animaux.
Oui. Et pourtant, dans d'autres places, c'est 2. Oui, hein? Ben, en tout cas, moi, depuis que je suis tout petit, on me dit qu'il a pris un couple de chaque. Il faudrait regarder, c'est peut-être une erreur d'impression ou quelque chose, en tout cas. Ou ben donc, quelqu'un qui a changé d'idée, ça peut arriver, ça, des fois. Noé ne savait pas compter. C'est Moïse qui a transcrit tout ça. Donc, quand l'arche a été terminée, Dieu a envoyé les animaux à Noé parce qu'il avait écouté, parce qu'il avait fait confiance au Seigneur, parce qu'il lui avait obéi. Lui et sa famille furent enfermés dans l'arche, en sécurité, par la grâce de Dieu. Dieu a fait grâce à Noé, Dieu a fait grâce à sa famille. Et après que le Seigneur a fermé cette porte-là, la pluie a commencé et elle a continué pendant 40 jours et 40 nuits. L'eau, non seulement, venait du ciel, mais aussi, elle venait des profondeurs de la terre jusqu'à ce que la terre soit entièrement couverte. Et comme Noé, on ne sait pas quand Dieu va fermer la porte. Dieu dit, je vais revenir à un moment où vous vous attendez le moins. Il va enlever son Église. Tous les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, vont aller à la rencontre du Seigneur. La porte ne sera peut-être pas complètement fermée parce qu'il va y avoir encore de l'espoir pour ceux qui vont rester sur la terre d'être sauvés. Mais je l'ai toujours dit, ça va être au prix de leur vie. Parce que le monde, là, va devenir vraiment antichrist. La pluie a tombé pendant 40 jours, 40 nuits. L'eau, non seulement, comme j'ai dit, venait du ciel, mais venait des profondeurs de la terre. Et comme Noé, on ne sait pas quand Dieu va fermer la porte qui nous obligera à tourner le dos à tout le monde afin de lui rester fidèle. C'est ce que Noé a fait. La porte est fermée. Vous avez été avertis. Souvent, je pense à ma famille, aux gens que j'aime autour de moi, qui ne sont pas sauvés. Puis je me dis, j'espère, Seigneur, que tu changes leur cœur. C'est pas moi qui va changer leur cœur, que je puisse rester un témoignage vivant, mais que toi, Seigneur, tu peux changer le cœur des gens. Parce que ces gens-là, je veux qu'ils passent l'éternité au ciel avec moi. L'obéissance a des limites. Des limites qui sont clairement définies. On n'a pas le droit de modifier ce que Dieu commande, de changer son calendrier ou d'opter pour juste une obéissance partielle. Je fais ce qui fait mon affaire, mais le restant, je ne le fais pas. Et c'est pourquoi c'est important d'écouter Dieu. Et Dieu nous parle à travers sa parole. C'est la façon que Dieu communique avec nous. Et Dieu, parce qu'on a reçu son Esprit Saint lors de notre salut, nous parle par l'Esprit qui est en nous. Écouter, faire confiance, obéir. Trois pratiques simples. Puis tout ça, ça va nous épargner d'innombrables chagrins. Ça va nous épargner des troubles. Ça va peut-être nous sauver la vie. Un nouveau départ maintenant. Puis une nouvelle promesse. Noé, sa famille, les animaux ont été dans l'arche pendant un peu plus d'un an, en attendant que l'eau se résorbe. Et Dieu a accompli ce qu'il a entrepris de faire. Et il a sauvé Noé et sa famille du déluge. Et après que Dieu lui ait dit de quitter l'arche, une des premières choses qu'il a faites, Noé, c'est qu'il a construit un autel au Seigneur et après, il lui a offert des sacrifices d'adoration. C'était la façon d'adorer Dieu, de reconnaître que Dieu, c'est le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, en lui érigeant un autel. Un autel, c'est ça. Et ensuite, il a immolé. Il a fait un sacrifice d'adoration. En réponse, Dieu a fait une alliance avec Noé, avec ses descendants et chaque créature qui vit sur la terre en disant, et regardez bien au verset 11 de Genèse, là, j'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge. Il n'y aura pas plus de déluge. Il n'y aura plus de déluge, c'est-à-dire pour détruire la terre. Et au verset 13, j'ai placé mon arc dans la nuée et il servira de signe d'alliance entre moi et la terre. Dernièrement, on a eu le privilège d'en voir beaucoup d'arc-en-ciel. Hein, je ne sais pas si vous avez remarqué. Et à chaque fois qu'on regarde un arc-en-ciel, ça vient tout de suite. C'est la promesse que Dieu a faite de ne pas détruire la terre avec le déluge, avec un autre déluge. La vie d'aujourd'hui n'est pas exactement comme elle était dans ce temps-là, mais aussi on pourrait dire qu'à bien les égards, elle l'est. Et comme Noé, on se doit d'écouter, on se doit de lui faire confiance, on se doit de lui obéir. C'est pas juste Noé, c'est nous autres aussi. On ne peut pas se permettre d'être comme les gens de l'époque de Noé. Et tous ceux qui n'ont pas cette relation-là avec le Seigneur le matin, c'est pas quelque chose que vous pouvez vous permettre de ne pas reconnaître qu'il reste peu de temps avant la fin des temps. Il La rébellion de ces gens-là, les gens qui étaient méchants, était flagrante et extrême. Et aujourd'hui, on peut voir que de plus en plus, la violence est extrême. Et même si vous allez me dire, ouais, ben moi, je ne suis pas capable d'être méchant comme ça, ben notre rébellion contre Dieu, c'est toujours le péché. Et sans la dépendance, sans être dépendant du Christ, en tant que sauveur, en tant que Seigneur de nos vies, personne ne va échapper au jugement. Aujourd'hui, Dieu offre le salut. Dieu t'offre le salut. Non pas avec une arche, inquiétez-vous pas, je ne bâtirai pas une arche. Mais par Jésus-Christ, son Fils. Et Paul dit dans Romains, chapitre 10, verset 9, une promesse qui dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu acceptes, si tu crois, si tu confesses être son enfant, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Je vais demander à l'équipe de louanges de monter, s'il vous plaît, avant qu'on termine. Il y a un chant que j'aime beaucoup et qu'on va interpréter, mais avant d'aller dans ce chant-là, rappelle-toi ces quelques questions-là et médite-les cette semaine. Ils sont écrits sur ton pamphlet. Comment as-tu vu la culture autour de toi changer au cours de ta vie? En quoi es-tu différent de cette société-là dans laquelle tu vis? Si t'es pareil, il y a quelque chose qui ne marche pas. De quelle façon te conformes-tu à la culture d'aujourd'hui? Dans 2 Pierre 3, versets 5 à 7, Pierre décrit c'est quoi le destin du monde. Et le monde qu'on vit actuellement va être détruit par le feu. Mais, lorsqu'on tourne un peu plus loin au verset 8 jusqu'au verset 16, Pierre nous encourage à vivre, à être motivé de changer de vie pour être son enfant. Et aspirer à cette vie éternelle-là, où on va passer l'éternité en sa présence. Donc, je vais laisser Sylvain diriger. Et,
dans ton bain, là. demande, mais comment est-ce que je fais pour aller vers le Seigneur? La chose à faire, c'est premièrement reconnaître que tu es un pécheur. Et inquiète pas, tous ceux qui sont ici, qui sont sauvés, on a fait la même chose. On est des pécheurs. Reconnaître que tu as péché. Et ensuite, croire. Croire que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est venu ici-même pour nous sauver à cause de son sacrifice parfait à la croix. Je crois, Seigneur, que tu es mort pour moi, pour tous tes péchés. Puis maintenant, aide-moi à marcher dans la vie que tu as préparée pour moi. Je sais que des fois, je vais m'enfarger, je vais me faire mal, je vais pécher encore, mais l'Esprit qui vient en moi va me dire, demande pardon. Fais-lui confiance. Prends le temps de, peut-être, si tu n'as pas de Bible, viens voir quelqu'un ici, on va t'en donner une. De lire l'Évangile de Jean. De voir comment Jésus est venu sur cette terre, justement pour sauver. Pas des justes, pas des gens qui se pensent meilleurs qu'un autre, des gens qui sont pécheurs. Et Paul dit, dont j'étais le premier, moi aussi je me joins à lui. Viens au Seigneur, je ne te demanderai pas de venir en avant. Je pourrais le faire, ça ne changera pas rien. Mais à soir, tantôt, va dans ta chambre. Demande pardon à Dieu. Il y a des gens qui ont entendu peut-être l'Évangile pour la première fois ou qui l'ont entendu souvent, Seigneur, et qui, des fois, par gêne ou quelque chose, il y a trop à perdre, qu'ils ont repoussé leur salut. Mais Père, toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Je te prie pour chacune de ces personnes-là que tu connais de toucher leur cœur et de les amener à toi. Et qu'on puisse jouir avec eux un jour au ciel pour l'éternité. Amen.
Je vais prendre place. Moi, ici, on va vraiment faire la salle d'enseignement pour nous apprendre. Et de nous amener dans